Bonjour à toutes et à tous. Voici, comme chaque mercredi, à partir de 16h, le magazine qui s'adresse à la communauté universitaire. Il s'agit, bien sûr, de Campus Lille Info, une émission donc qui est réalisée chaque mercredi en direct avec des invités. Aujourd'hui, nous allons parler d'un laboratoire. Il s'agit du RIM Lab. RIM. Donc c'est un laboratoire en management et éco et il nous est présenté aujourd'hui par Oliviane Brodin et Lynn Ma. Bonjour mesdames, mesdemoiselles.
Bonjour. Bonjour.
Voilà, donc on va vous présenter. Vous êtes maître de conférence.
Oui, c'est ça.
Et donc dans ce cadre-là, évidemment, vous travaillez sur le management et l'économie dans le cadre d'un laboratoire qui regroupe plusieurs entités, on va dire, régionales, des universités, des chercheurs de plusieurs universités.
Voilà, RIM Lab, c'est un laboratoire tout récent, mais qui réunit déjà un certain nombre d'enseignants-chercheurs, puisque nous sommes presque une soixantaine de membres, plus pratiquement une trentaine de doctorants et d'autres membres associés. Bon, ça correspond quand même à une centaine de personnes dans notre laboratoire.
Donc on connaît dans le grand public le marketing, on ne connaît pas forcément l'association Marketing Management, Management Économie. Vous avez à chercher sur l'ensemble, on va dire, de ces champs.
Oui, c'est un laboratoire qui est généraliste, interdisciplinaire, comme son nom l'indique. C'est une volonté de nos universités, celles qui sont les marraines de notre laboratoire, puisque c'est un laboratoire qui a été créé par les universités de Lille 1, Lille 2, Lille 3, l'université d'Artois et l'université LULCO, Littoral Côte d'Opale. Donc dans notre laboratoire, nous avons des spécificités selon les thématiques qui nous intéressent le plus et qui font que nous nous sommes réunis comme enseignants-chercheurs pour travailler sur des choses qui nous intéressaient ensemble. Notre laboratoire a défini un certain nombre d'axes de recherche qui ont été discutés et votés entre nous, qui concernent, oui, le marketing, qui concernent les organisations sous toutes leurs formes, de manière générale. Ça, ce sont plutôt les deux axes management du laboratoire. Mais nous avons aussi deux axes spécifiques en économie, qui s'intéressent plutôt à l'économie du travail, et puis aux dynamiques européennes et internationales. Et en fait, on a un axe un peu spécifique, qui est interdisciplinaire, qui est un axe finance qui intéresse à la fois les économistes et les chercheurs en management. Et Lynn fait partie de cet axe finance.
Donc dans vos domaines, est-ce que vous avez l'impression que la situation évolue très très vite et qu'il faut absolument adapter la recherche, les pratiques, être, on va dire, très réactif? Ou est-ce que vous pensez que la recherche dans ces domaines-là mérite du temps, j'allais dire aussi des financements qui permettent de travailler sur des projets qui ne soient pas forcément utilitaires au départ, mais qui vont servir par la suite? Donc une culture générale, on va dire.
Je pense pouvoir répondre à cette question avec un exemple concret. En finance, on travaille beaucoup sur les normes comptables. C'est-à-dire que depuis 2010, on constate une vraie tendance de globalisation des normes comptables dans l'objectif de pousser les sociétés à produire les mêmes rapports financiers, qu'elles soient basées en Europe, en Amérique ou en Asie. Et ces constatations nous poussent à réfléchir sur la question de ces modifications de normes, quelle est leur influence finalement sur la performance des sociétés, sur aussi les méthodes de contrôle qu'on dispose pour limiter les dérives financières des entreprises. Et en 2014, toutes les sociétés côté en France ont été soumises aux normes internationales et que en 2017, ça va être l'ensemble des sociétés françaises qui vont s'y mettre.
Est-ce qu'il existe encore un protectionnisme français, voire aussi un protectionnisme européen par rapport à ces normes qui tendent à devenir internationales?
Mais cette tendance-là, on va dire que les sociétés françaises ou européennes ne sont pas soumises aux normes. Bien au contraire, on essaye de rendre les informations financières les plus transparentes possibles, et ce, pour l'ensemble des investisseurs internationaux. Et on est plutôt un acteur dynamique qui pousse à réaliser cette internationalisation des normes comptables.
Alors, si on prend la production d'une manière globale en Europe, souvent il y a des productions certifiées européennes avec des normes européennes. Est-ce que dans l'Europe déjà, il y a une norme concernant par exemple les plans comptables, par les rapports de gestion, etc.?
Oui, il y a toujours les normes. Quand demain on travaille dans une société en tant que comptable, on est obligé de répondre aux normes françaises dans un premier temps. Et aujourd'hui, justement, on nous dit, on essaye de standardiser ces normes sur toute la planète. Comme ça, les investisseurs, une fois ils arrivent sur le marché, ils ont les mêmes évaluations, les mêmes passes d'évaluation. En tout cas, pour donner une estimation propre des différents titres financiers.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec ces normes, on détecte par exemple des sociétés qui font appel à des placements dans des paradis fiscaux illégaux?
Après, les normes comptables et les normes fiscaux ne sont pas tout à fait la même chose. Et justement, en Europe, on est toujours dans la dynamique de rendre des normes fiscaux de plus en plus équitables entre les pays. Mais là, aujourd'hui, notre axe de recherche, pour l'instant, c'est investi sur la recherche des normes, sur les normes comptables.
Voilà. Donc les grands cabinets comptables et les petits sont obligés aussi de se mettre à la page. Est-ce que vous les renseignez, sinon les former?
Les grands cabinets comptables, évidemment, ils sont mis à jour tous les ans. Ils ont des formations pour se mettre à niveau des exigences actuelles.
Et donc, vous, par exemple, vous pouvez très bien avoir des doctorants-chercheurs qui vont dans ces cabinets faire des études, voire des expertises?
Exactement. On a les experts comptables qui ont envie d'approfondir leur réflexion sur leur domaine, qui s'inscrit au labo pour effectuer une thèse. Ça leur donne aussi une certaine profondeur dans leur réflexion, dans leur pratique. Et je pense que la coopération entre la recherche et le monde professionnel ne peut que produire des résultats satisfaisants.
Alors, c'est vrai que votre labo, le RIM Lab, a une mission de recherche. Cette recherche, elle n'est pas forcément appliquée pour la région Nord-Pas-de-Calais dans laquelle vous êtes implanté. Elle est beaucoup, on va dire, elle est transversale. Elle dépasse peut-être même les frontières.
Ouais, la recherche en particulier sur l'un des axes économiques du RIM Lab a pour objet par exemple de travailler sur le tourisme, et il y a un projet ANR qui est en cours de constitution au sein du laboratoire à l'heure actuelle par un économiste du laboratoire et d'autres collègues, puisque nous travaillons aussi en partenariat avec d'autres laboratoires de recherche qui s'intéressent essentiellement à la relation qu'il peut y avoir entre le patrimoine français comme élément touristique et la tarification de l'hébergement hôtelier, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est géographiquement situé et qui peut se décliner au plan de la région. On utilise dans ce cas-là des modèles qu'on utilise aussi bien en marketing que dans d'autres disciplines, qui peuvent mesurer aussi bien l'attractivité de certains lieux. Ça peut être une ville, ça peut être un monument, un quartier ou autre chose, comme on mesure avec les mêmes méthodes l'attractivité d'un centre commercial. Là, les méthodes sont proches et peuvent être extrêmement intéressantes. Donc ça peut se décliner au plan régional.
Je ne vous demanderai pas si l'île Trois-Mules influe sur le montant des loyers lillois.
Non, c'est une question qui dépasse le cadre touristique.
Voilà. Donc, en fait, on est dans un monde qui évolue. Vous, votre recherche, est-ce qu'elle se différencie vraiment des recherches internes aux grosses entreprises qui ont peut-être aussi leur cabinet d'expertise?
Je pense que, en particulier à RIMLAB, nous nous sommes constitués aussi un petit peu dans certaines approches critiques ou qui n'étaient pas prises en charge dans d'autres laboratoires. Et la différence entre la recherche en management et la pratique du management en entreprise, c'est quand même une forme de liberté qui fait que nous ne travaillons pas uniquement pour les entreprises, loin de là. En fait, la recherche en management s'intéresse à toutes les formes d'organisation, que ce soit des associations, que ce soit des entreprises, des institutions diverses. Il y a tout un domaine du management public également qui peut nous intéresser. Et mon domaine, personnellement, est le domaine de l'étude des comportements de consommation. Et c'est un domaine, une discipline qui s'est en quelque sorte libérée, si on veut, du marketing il y a déjà de nombreuses années. Donc qui peut travailler aussi bien pour les consommateurs que pour les associations de consommateurs et qui permet de comprendre et de collaborer d'ailleurs pour faire en sorte que tous les domaines d'information des consommateurs, d'achat, d'après-vente aussi, soient à l'heure actuelle étudiés dans une optique beaucoup plus intéressante pour toutes les parties prenantes dans cette affaire. La responsabilité sociale des entreprises, c'est un champ qui est étudié aussi dans notre laboratoire, puisqu'il y a des chercheurs parmi nous qui ont d'ailleurs réalisé un dictionnaire de la responsabilité sociale des entreprises en partenariat avec un autre laboratoire de Lille-1 qui est le CLERCE.
Donc cette responsabilité sociétale des entreprises, c'est quelque chose qui semble en bonne voie d'être promu, d'être répandu en termes de pratique aussi.
Oui, là on va rejoindre le domaine de l'IN, enfin, ou des domaines intermédiaires qui sont des questions de gouvernance des entreprises, qui sont également des thématiques qui nous intéressent. Mais là, c'est pas tout à fait spécifique à notre laboratoire, hein, loin de là. Mais ce sont des choses, par exemple, dans la publication des rapports annuels d'entreprise, à l'heure actuelle, il y a des obligations qui concernent, par exemple, le bilan carbone des entreprises ou simplement la proportion de femmes cadres dans l'entreprise, enfin des questions qui sont des questions qui concernent toute la société globalement et pas uniquement les résultats commerciaux, financiers ou comptables des entreprises.
Si on prend le point de vue du marketing, est-ce que pour les gens qui travaillent dans le marketing, je ne parle pas de la recherche, est-ce que pour eux, un consommateur est encore un citoyen ou plutôt un objet d'observation ou d'exploitation?
Ça dépend complètement des entreprises. Dans ces pratiques-là, c'est un petit peu comme les débuts de la médecine. Hein. Toutes les optiques éthiques existent. La palette est large. Il y a des entreprises qui travaillent dans une optique très intéressante, très co-créative avec les consommateurs, en constatant tout simplement qu'à l'heure actuelle, dans bien des domaines, l'entreprise ne contrôle plus 100% les choses. Le marketing management des années 70 existe, bien évidemment, permet de guider certaines orientations marketing en particulier, mais les consommateurs, les internautes, les individus, les citoyens ont une part de pouvoir non négligeable et ne se privent pas de l'utiliser en s'appropriant, en captant, en détournant, que ce soit les logos, les communications, les produits. Les consommateurs, à l'heure actuelle, sont souvent très proactifs, très créatifs et n'utilisent pas nécessairement ce qui est mis à leur disposition, par exemple dans les applications de smartphone, comme ça a été imaginé par l'entreprise. Et les entreprises ont tout intérêt à savoir ce que les consommateurs font de leurs produits, de leurs services, ou même de leur logo et de leur communication, puisqu'il y a quand même des choses extrêmement positives des deux côtés. Les consommateurs jouent aussi avec tous ces éléments, et ça peut être un élément très fort pour l'entreprise, pour son image, pour sa réputation, parce que ce sont des consommateurs qui peuvent librement contribuer, à condition que l'entreprise ne souhaite pas contrôler 100% les choses.
Alors c'est vrai que pendant longtemps et encore maintenant, il existe des associations de consommateurs qui souvent peuvent aussi être interface entre le monde économique et puis aussi le consommateur. Là maintenant, on est plus sur une relation directe avec ces effets d'Internet et aussi sur les applications qui directement vont intégrer des données des utilisateurs pour en faire une utilisation plus ou moins louable d'ailleurs.
Oui, c'est un vaste sujet qui a trait évidemment à toutes les données que possèdent les entreprises sur les comportements de consommation. C'est très ambivalent. Ce sont des outils qui sont très riches et qui peuvent être mis au service des clients et des consommateurs, comme ils peuvent être extrêmement intrusifs dans certains cas et extrêmement négatifs pour les individus. En règle générale, il faut se méfier quand même des stéréotypes. Là, la recherche a un vrai rôle à jouer de distance par rapport à ces phénomènes, parce que ça conjugue vraiment énormément de choses. On peut dire que, par exemple, la question de la protection de la vie privée, c'est une problématique qui a concerné aussi historiquement beaucoup le 19e siècle, que c'est quelque chose qui évolue énormément, qu'il y a à l'heure actuelle dans la société des injonctions à la visibilité, voire, diraient certains comme Bauman, à la marchandisation de soi. Ce sont des choses qui sont très fréquentes parmi nos étudiants aussi, et ce sont des phénomènes qu'il faut essayer d'étudier avec un petit peu de recul, scientifiquement, de manière assez rigoureuse.
Quand on cherche dans vos labos, ou quand on est étudiant et qu'on y vient, faire un petit séjour ou un long séjour, est-ce qu'on peut avoir un comportement modifié suite à ce qu'on observe ?
En tant qu'étudiant dans un laboratoire,
En tant qu'individu aussi, quand on est venu là, on n'en sort pas comme on en est entré ?
Ah non, bien évidemment, ça fait évoluer, c'est se confronter un petit peu à la complexité, à la rigueur de la recherche, à l'énorme étendue de connaissances auxquelles on peut avoir accès à l'heure actuelle, et surtout à des approches critiques. C'est ça qu'on apprend, c'est la curiosité peut être spontanée, mais elle s'alimente énormément de l'information. Ça n'est pas du tout la même curiosité que l'on rencontre initialement et puis au bout de quelques temps quand on est plongé dans sa recherche. C'est bien ça qui fait l'intérêt de notre métier, c'est d'approfondir tous ces questionnements et d'aller de les faire évoluer très très rapidement au sein d'une recherche. Au plan individuel, personnel, en tant qu'être humain, un doctorant est, bon, je dirais pas méconnaissable, mais presque, entre le début de sa thèse et la fin, après sa soutenance de thèse.
Lina, vous me confirmez ?
Oui. Oui, je voulais juste rajouter un point. Là, on parle beaucoup de l'entreprise, ce qui se passe dans la société, dans la vie, mais finalement, un labo de recherche se doit aussi de faire avancer les concepts, enfin, des connaissances conceptuelles. Si je prends un exemple pour l'axe finance, on sait très bien que les cours boursiers évoluent de manière plus ou moins aléatoire. Et un projet de recherche que je mène actuellement consiste à mesurer de manière aléatoire, algorithmique, dans quelle mesure ces séries boursières sont complexes. Quand je parle de manière algorithmique, j'entends par la programmation, le code. En gros, on demande aux ordinateurs de chercher des régularités dans ces séries et essayer de prédire le cours de demain en fonction de ces régularités.
Ça s'est fait aussi pour le loto à un moment donné.
Exactement.
Ce sont les mêmes techniques ?
Nous, en tant que chercheurs, on ne se lancerait pas dans la recherche de régularité dans le loto, parce que par définition, c'est un tirage aléatoire et il n'y a aucune régularité à chercher là-dedans. En revanche, ça se discute pour les cours boursiers et ça a surtout une valeur théorique très importante de pouvoir quantifier le degré d'aléa dans les séries boursières.
Bon, oui. On ne va pas vous demander en cette période de culture intense lilloise d'avoir un algorithme pour le marché de l'art et des œuvres contemporaines qu'on peut voir ici et là.
Mais pourquoi pas la variation du code d'un œuvre art, ça, c'est imprévisible, c'est chercher un peu de régularité là-dedans. Pourquoi pas on essaye de voir en tout cas si les machines feront mieux que nous avec nos cerveaux, des êtres humains.
J'ajouterais peut-être que l'art inspire aussi l'étude du comportement du consommateur et qu'il y a de fortes accointances entre les deux. Si on regarde une exposition actuellement au Palais des Beaux-Arts à Lille, il y a quand même une présentation de toute l'évolution historique du packaging de la vache qui rit, et il y a des choses extrêmement intéressantes à en tirer au plan de l'étude du comportement du consommateur à l'heure actuelle.
Non, on peut aussi dire qu'un quelqu'un qui a une œuvre qu'elle a achetée à titre personnel et qui met à disposition d'une grande exposition peut trouver son œuvre évaluée ou réévaluée assez vite par la suite.
Oui, mais du coup, tout ça, ça repose sur la grande question fondamentale qui est le hasard, comment le définir? C'est un ensemble de facteurs qui s'interagissent entre eux ou c'est quelque chose de surnaturel qu'on n'aurait jamais pu comprendre, quel que ça soit? Enfin, c'est toute la question qu'on essaye de d'éclaircir en apprenant cette approche algorithmique.
Voilà, donc faire la part entre le hasard pur et aussi le marketing.
Oui, enfin, en tout cas, l'interaction d'un ensemble de facteurs assez complexes.
Mmh. Oui. On se rend bien compte que vos sujets sont passionnants. Alors, qu'est-ce qui vous a fait entrer dans ces domaines au départ? Alors, on va prendre dans l'ordre. Oliviane Brodin.
Moi, j'y suis entrée finalement assez rapidement avec un professeur. C'est souvent une histoire de personne, tout simplement. Et j'ai eu un professeur qui m'a vraiment fait découvrir ce que c'était que la discipline de l'étude du comportement du consommateur. Même si c'était il y a quelques années déjà, ça m'a vraiment intéressée. C'était enfin dans mes études quelque chose qui me parlait, quelque chose qui m'interrogeait. C'était très intéressant parce que ça multiplie les disciplines qu'on peut utiliser, qu'on peut mobiliser, que ce soit la sociologie, l'anthropologie, l'économie, la psychologie, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment passionnant parce que les phénomènes de consommation sont quand même franchement au cœur de notre vie à l'heure actuelle. On dit tellement de choses, on fonctionne tellement sur des stéréotypes sur le sujet que c'est ce qui m'a vraiment intéressé, plus sans doute une tournure personnelle d'avoir envie d'aller un peu au fond des choses, donc de me lancer dans une thèse initialement.
Nina ?
Je pense que derrière chaque thèse, il y a une histoire de rencontre. Moi aussi, c'était pendant mon master, la rencontre avec mon directeur de thèse, enfin plutôt mes directeurs de thèse, parce que j'en ai deux, un en finance et un autre en informatique. Donc c'est pour ça, cette synergie m'a poussée à m'orienter vers ce domaine de l'algorithmique finance. Oui.
Donc, on va revenir, Oliviane Brodin, peut-être par rapport à ce laboratoire RIME Lab, qui est un laboratoire très récent. Quelles sont ses perspectives d'avenir? Est-ce qu'il envisage de publier des choses et quoi, par exemple?
Ah, bien évidemment. C'est quand même une des grandes activités d'un laboratoire de recherche. C'est nous produisons des connaissances nouvelles, mais il faut bien entendu les diffuser, les partager, les faire connaître. C'est au moins la moitié de notre activité. Donc à RIMLAB, il y a quand même quelques spécificités. On a un positionnement là-dessus. C'est-à-dire que nous multiplions toutes les productions scientifiques dans toute leur variété, dans toute leur diversité. Que ce soit l'organisation de colloques, donc qui sont prévus déjà pour l'année prochaine, que ce soit des séminaires de recherche qui sont internes mais qui peuvent être ouverts, il y a des invitations, hein, ça n'est pas fermé, tout ça. Que ce soit de manière très très classique, des publications d'articles dans des revues internationales qui sont des revues cotées. Nous sommes un laboratoire jeune, mais il y a déjà des publications qui sont acceptées, qui sont publiées, qui sont sortis, puisque bon, nous venons aussi d'ailleurs, donc ce sont des choses qui continuent et qui prennent corps matériellement. Mais ce qui est spécifique à RIMLAB, c'est un petit peu aussi le fait que les chapitres d'ouvrages, les études de cas, enfin, toute la variété possible de diffusion de nos connaissances nous intéresse. Donc ça, c'est un des éléments importants, sachant qu'on privilégie plutôt un état d'esprit d'accueil, d'ouverture, de tolérance méthodologique, épistémologique, etc. au sein du laboratoire, avec des échanges interdisciplinaires. Et puis, un accent sur la pertinence des recherches, peut-être plus que nécessairement sur la production en quantité.
Voilà, alors j'allais dire longue vie à RIMLAB.
Merci.
Merci.
Et bonne continuation pour vos recherches. N'hésitez pas à nous retrouver pour traiter d'une thématique toute particulière, par exemple.
Merci. On y pensera beaucoup. Et ce sera certainement intéressant.
Avec plaisir.
Très bonne journée.
Merci.
Au revoir.